chère vieille foi. La bonne cuisine, les folies bergères, le guépari, la haute couture, mais de bonnes exportations, du cognac, du champagne, et même du Bordeaux ou du Bourgogne. C'est terminé.
Dans l'actualité des idées aujourd'hui, l'Amérique, c'est nous, avec le philosophe et écrivain Régis Debray. Après Allons aux faits, croyances historiques, réalité religieuse, Paris à la rentrée, chez Gallimard, recueil de conférences animées sur France Culture, précédé de La laïcité au quotidien, écrit avec le préfet Didier Lesky, et La fantasque Madame H comme histoire, en épigraphe de son nouvel essai, ces mots d'un poète qu'il chérit, Paul Valéry, « Je me demande si tout ceci, l'Europe, ne finira pas par une démence ou un ramollissement général ». Au quatrième top, il sera exactement la fin du monde. Nous sommes en 1939. En pleine campagne présidentielle, il publie aujourd'hui « Civilisation, comment nous sommes devenus américains » chez Gallimard. À l'affirmative, et oui, le philosophe entérine l'absence chez nos dirigeants de cette conscience historique qui fait humanité, raconte comment l'Europe est devenue un canton de l'Amérique, illustre les transferts d'hégémonie et s'excuse de son abus d'anglicisme. Parler la langue de l'ennemi pour mieux le combattre ou lui résister, oui, mais comment de deuil déconseillé, nous dit notre invité, Régis Debray, appelle à rester lucide et optimiste. Les décadences peuvent être aimables, fécondes, voire même indispensables. Plaidoyer pour une transmission repensée, c'est tout de suite jusqu'à 13h30 avec notre invité Régis Debray. Bonjour.
Bonjour.
On évoquait ensemble juste un rapide retour sur le débat qui a eu lieu hier soir quand vous sous-titrez votre ouvrage « Comment nous sommes devenus américains ». Vous auriez envie de dire, la preuve en est, si on regardait la télé hier?
Écoutez, oui, notamment par un point qui m'a beaucoup frappé. Pour moi, enfin, disons, l'ère dans laquelle nous sommes entrés, que j'appelle américaine, mais que ce n'est pas du tout pour la disqualifier, c'est une ère objective. Il y a des changements d'ère dans l'histoire de l'humanité. C'est l'Homo economicus d'abord. Homo economicus avant Homo politicus, lequel avait d'ailleurs remplacé Homo religiosus. Hein, ce sont des... L'homme religieux, ça va jusqu'à la Renaissance ou la Réforme. Ensuite, c'est l'homme politique. Maintenant, c'est l'homme économique. Et le fait que cet affrontement commence par des questions d'économie, n'est-ce pas, est une illustration de ce transfert du centre de gravité du politique vers l'économique. On ne dit plus l'intendance suivra. Elle précède. Bon. Imaginez-vous, alors je ne vais pas vous reprendre des faux... Enfin, imaginez-vous Mitterrand ou De Gaulle commençant un débat de ce genre par une bataille de chiffres et de pourcentages. C'est grotesque. Et pourtant, nous le prenons comme naturel. Donc, c'est ça.
Ça, c'est la faute de l'Amérique.
C'est ça.
C'est l'Amérique qui nous a apporté ça, ce passage du politique
non.
à l'économique.
C'est l'Amérique qui nous a devancé, puisqu'elle a cette faculté, de par son histoire... et de par ces technologies, et de par beaucoup d'autres choses. J'aurais envie de mentionner le protestantisme, qui me semble un facteur fondamental. Mais pour aller vite, oui, l'Amérique est fondée sur le contrat. C'est l'origine. Hein. Ça s'appelle le compact de 111 personnes qui débarquent en 1620 au Cap Cod et qui font un contrat. Il n'y a pas d'institution avant, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas d'héritage. Donc, vraiment, la contractualisation, si vous voulez, des relations sociales, l'Amérique est beaucoup mieux fondée que nous, puisque c'est son histoire. Bon. Donc voilà, je n'attache pas à ce mot d'Amérique un contenu laudatif ou péjoratif. Ça, c'est à chacun, je dirais, selon ses goûts, ses affinités. Si j'étais financier...
Vous n'êtes pas emballé, quand même.
Pardon ?
Vous n'êtes pas emballé, globalement.
Bah, je suis pas emballé. Je suis pas plus emballé, si vous voulez, qu'un Romain du IVe siècle qui voit monter le christianisme ou qu'un chrétien du XXe qui voit sa religion disparaître. Bon, c'est une question existentielle. On peut avoir, comme on dit, le cœur gros. Mais ça n'empêche pas l'esprit de fonctionner et surtout de relativiser tout ça. Je répète que la fin d'un monde n'est pas la fin du monde. Tout ça va se poursuivre autrement. Et Valérie avait raison de dire que les décadences produisent des littératures parfaites, c'est-à-dire pleines de contradictions, de richesses, de connaissances des choses. Donc le mot décadence, pour moi, n'est pas un mot triste. C'est pratiquement un mot gay. C'est pourquoi à Vienne, on disait la joyeuse apocalypse.
Parlons d'en revenir, messieurs, à un exemple concret, celui d'hier soir, pour mieux entrer dans le cœur de cet essai Civilisation, Régis Debray, que vous signez. On recevait dans la première partie de l'émission le comédien Jacques Weber et l'écrivain Hervé Le Tellier, qui, comme vous, s'attache aussi à comprendre, à déceler les liens entre politique et théâtre. Hier, beaucoup ont vu dans ce débat télévisé un affrontement qui ressemblait à celui de Donald Trump avec Hillary Clinton. Ce que je trouve intéressant, c'est que Jacques Weber rejoue en ce moment le débat Mitterrand-Chirac de 1988, aujourd'hui on est en 2017, on sait que ces débats télévisés sont quand même des rituels très réglementés et qu'à leur manière, ils expriment quand même les traits d'une époque. Vous, dans les 10 petites minutes avant de vous plonger dans un polar que vous avez pu regarder de ce débat, quels traits de notre époque avez-vous vu ?
Ben, d'abord, rappelez-vous, le débat télévisé, ça a été inauguré aux États-Unis par Kennedy et Nixon. Deuxièmement, un des caractères, si vous voulez, de ce qu'on peut appeler l'américanité ou la postmodernité, c'est la prédominance de la culture visuelle sur la culture écrite. Moi, je suis frappé par la disparition des questions de programme, de vision du monde, d'insertion dans l'histoire. Mais voilà, c'est un fait. Écoutez, moi, qui a beaucoup vu, a beaucoup retenu, disait La Fontaine, je me souviens ce qu'étaient les panneaux électoraux de ma jeunesse. Vous êtes trop jeune, mais je vais faire le vieux con. Les panneaux électoraux de ma jeunesse, c'était un grand texte de 2 mètres sur 1, avec dans un coin une photo vignette, genre, vous savez, carte d'identité. C'était ça. Et on s'arrêtait et on lisait. Et puis on passait à l'autre panneau. Ça, c'est fini. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui qu'une affiche électorale ? C'est un closer, comme on dit, sur une tête. Et ben voilà, je pense qu'il y a là un des nombreux symptômes, si vous voulez, d'un changement d'atmosphère.
Un culte
une
de
ère village. Est une atmosphère, ouais, c'est un climat.
Mais vous avez voilà. Une personnification. Ils sont assis quand même hier. Ils n'étaient pas debout derrière des pupitres.
On a gardé oui, ça. Oui, effectivement. Ah non, mais vous savez, une civilisation doit se décliner en épousant les plis du terrain, bien sûr. Moi, j'étais... Alors, tout à fait à la fois ravi et peiné de voir le fameux pupitre en plexiglas. Parce que le pupitre en plexiglas à la place du fauteuil Louis XIV, c'est pour moi, au milieu du deuxième septennat de François Mitterrand, la charnière, hein, le tournant. Et c'est pas pour rien. Ces communicants avaient été aux États-Unis et avaient vu comment aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que le marketing électoral moderne, jeune et dynamique. Ben, faut pas être assis, c'est les vieux, c'est pas les jeunes. Et donc, ils ont ramené l'idée du pupitre en plexiglas, qui est un cadeau de la Maison-Blanche à l'Élysée. Je le salue. C'est un transfert, si vous voulez, intéressant.
Et voilà, ça, c'est la parole du Régis Debray, sémiologue, par ailleurs directeur de la revue Medium, dont le dernier numéro, celui du printemps, s'intitule À la française.
Oui, on a voulu définir ce que peut être un esprit à la française, voilà. Ce que peut être un certain profil, un idéal type, si vous voulez, de ce qu'on peut appeler aujourd'hui français. C'est un peu rétro, mais méfiez-vous, ça va devenir de plus en plus proactif, comme on dit.
Alors est-ce que justement cet esprit à la française peut rejoindre ce que serait la culture française et est-ce que la culture française peut elle-même rejoindre ce que serait la civilisation? Alors on va aller un peu au-delà de la France, la civilisation européenne. Civilisation, c'est donc le titre que vous avez donné à votre essai, cette fée baladeuse, pas fabuleuse, qui mérite d'être redéfinie. Et c'est par là que vous commencez, Régis Debray. Elle n'est pas une nature morte, un métabolisme, c'est comme ça que vous la définissez, cette civilisation. C'est le propre de la civilisation vivante, elle se transforme au fur et à mesure de ce qu'elle absorbe et stimule chez les autres, qui la naturalise, l'empaille, alors qu'elle se nourrit d'emprunts et d'échanges. Si le monde des faits de plusieurs civilisations. Qu'est-ce qui fait la nôtre pour vous, Régis Debray, et qu'est-ce qui la défait aujourd'hui ?
Écoutez, qu'est-ce qui fait la nôtre ? Nous avons une civilisation d'abord fondée sur l'écrit plutôt que sur l'image. Nous avons une civilisation fondée plus profondément sur le temps et non sur l'espace. L'Amérique est le continent de l'espace. Et pour des raisons géographiques, l'immensité de l'espace. Donc la mobilité, donc l'automobile, donc la fusée. Nous sommes une civilisation fondée sur le temps, c'est-à-dire que ce qui fait le lien entre les hommes, c'est une histoire. Et donc c'est la base d'un autre type d'enseignement. On préfère parler de peuple que de population, parce que la population, c'est une collection d'individus dans un espace donné. Le peuple, c'est une histoire, c'est une diachronie, comme on dit de façon compliquée. Mais je veux dire, voilà.
Donc c'est plus qu'une langue, c'est plus qu'une religion,
alors,
c'est une
histoire. La langue, bien sûr, est fondamentale. La langue, elle est en train de se défaire, ou de se simplifier, ou de se contrefaire, sans doute pour se rajeunir, mais c'est un processus qu'on a déjà connu. La langue latine s'est défaite, s'est décomposée entre, disons, le 5e et le 8e siècle. Elle a donné des créoles formidables qui sont devenues de grandes littératures. Non, il y a effectivement, il n'y a pas de langue pure, hein, il n'y a pas de langue fixe. Toute langue se nourrit d'emprunts, mais aujourd'hui, ces emprunts n'ont rien de multipolaire. Ils sont unipolaires, c'est-à-dire ce sont les... ce qu'on peut appeler les californismes, si vous voulez, plutôt que les anglicismes, qui ont changé le parler. Et je dirais pas seulement le parler, mais le rythme de la parole. Moi, j'ai un problème avec France Culture, c'est que tous les jeunes gens brillantissimes que vous avez, ils parlent tellement vite que le débit a changé. Ils parlent tellement vite que j'ai du mal à les comprendre. Alors, je les réécoute deux fois. Je préfère les lire que les écouter parce que il y a
France Culture papier.
Pardon.
Non, je blague. Non, Alain Duhamel, par exemple, sur les chroniques d'Alain Duhamel, il y avait eu des chronométrages qui avaient été faits il y a 30 ans et maintenant, effectivement, lui-même, la même personne, avait accéléré son débit.
C'est une bonne
très
notation.
Nettement, très sensiblement.
Voyez un peu le débit de Mitterrand et Chirac dans le et vous ne retrouverez pas le débit auquel on a entendu hier, qui était on se bouscule, on se chevauche. On enfile les perles sans doute, mais de façon tellement saccadée. Donc voilà.
Ça veut dire qu'on n'est plus dans le temps.
Ça veut dire que time is money, faut pas perdre son temps, et que les articulations, les nuances, les coordinations, les subordinations, enfin, toute cette complexité syntaxique est mise à l'as pour des raisons d'efficacité. Vous me demandez ce que c'était que l'américanité, je dis efficacité d'abord.
Et je vous demandais aussi ce qu'était une civilisation. Ah, oh, me regardez pas comme ça, je parle trop vite.
J'ai pas assez non, articulé. Au contraire, j'étais en train de penser un compliment, et pas seulement une galanterie. C'est que vous, je vous entends, c'est-à-dire que vous prenez votre temps. Ouf.
Bon, ouf, effectivement. Juste, vous dites qu'une civilisation a aussi besoin d'un imaginaire propre. Quel serait cet imaginaire ? Qui serait en danger aujourd'hui, qui serait peut-être menacé par cette américanisation plus que par cette américanité.
Écoutez, faut pas se leurrer. Notre imaginaire est cinématographique et le cinéma américain, c'est un pléonasme. Je reprends le mot de Serve Danet. C'est-à-dire que nous avons l'imaginaire que nous est suggéré. Je dis pas imposé, parce que nous allons au cinéma de notre bon gré, nous sommes séduits, et qu'est-ce qui reste? Ce sont des images à la fois durables et mondiales, parce que les mots ne s'exportent pas, faut les traduire, alors que l'image fait le tour du monde très vite. Et les Américains ont inventé, et je dirais, sont les seuls à pouvoir raconter des histoires au monde entier. Parce qu'elles sont fondées sur l'image et parce que, au fond, les acteurs américains sont les seules célébrités mondiales. Nos acteurs à nous, peut-être je mettrais, peut-être de Pardieu à part un peu, si vous voulez, ne sont pas des célébrités mondiales. C'est-à-dire, ne sont pas des images, ne sont pas des icônes, je dirais, de Jakarta à Rio de Janeiro.
Et vous dites aussi que cet impérium, en fait, cette capacité à dominer par l'image, se poursuit malgré tout aujourd'hui, même si, par ailleurs, on peut penser que l'Amérique politiquement et même militairement perd un peu de terrain.
Oui, il n'y a pas de coïncidence, vous savez, entre la force économique d'un pays et sa force d'irradiation. L'Empire romain a irradié bien après, disons, son acmé, bien après son apogée. Mais ce qu'il y a de formidable chez les États-Unis, c'est la conjonction de quelque chose qui a fait l'Europe jusqu'à présent et que l'Europe n'a plus. C'est la combinaison d'un pouvoir absorbant et d'un pouvoir émissif. Et cette combinaison-là fait une civilisation. C'est-à-dire, j'absorbe beaucoup du monde extérieur. J'ai 100 000 Sud-Coréens dans mes universités, et presque autant de Chinois.
Et Hollywood absorbe toutes les gens du monde entier pour faire des films.
Hollywood a été fait par les exilés viennois, ouais. Juifs pour la plupart, qui ont donné à ce cinéma une irradiation formidable. C'est-à-dire, je reçois et j'émets. C'est parce que je reçois que je peux émettre. On a envie de dire ça à Madame Le Pen de temps en temps. C'est-à-dire que ma force d'irradiation dépend de ma capacité d'absorption, c'est-à-dire, j'allais dire de générosité, mais c'est pas un problème moral, c'est aussi un problème d'efficacité. Après tout, c'est Monsieur Von Braun qui a amené un Américain sur la Lune. Je vous rappelle que c'est lui l'inventeur des V2. Et c'était un nazi convaincu. Mais voyez-vous, on n'est pas sectaire aux États-Unis. On prend ce qu'on a, on prend ce qui marche.
Alors Hollywood, c'est de là que la civilisation américaine tirerait, entre autres, sa force symbolique, Régis Debray. Mais pour en revenir à l'Europe, pour ne pas décentrer tout de suite le regard, quand est-ce que l'Europe a pour vous cessé de faire civilisation, telle que vous nous l'avez définie ?
Oui, cesser de faire civilisation, c'est-à-dire d'être la référence des autres civilisations. D'abandonner la capacité de produire des standards aux États-Unis et pas... Alors, quand est-ce que ça s'est passé ? Écoutez, quand on parle de civilisation, on parle de longue durée. Hein. C'est pourquoi il faut prendre un certain recul par rapport à l'événement. Moi, je crois que cette formidable idée d'Europe a été un peu... est mal partie parce qu'elle a été produite ou mise en œuvre par Jean Monnet, qui était lui-même un grand banquier qui avait une vision économiste des choses et qui donc a mis l'Europe sur les rails, je dirais, d'une fausse bonne idée, à savoir qu'un marché peut faire un peuple. Qu'un marché européen peut faire un peuple européen. Non, ça ne marche pas. Le monde des échanges de biens et même de personnes ne suffit pas à faire un peuple, c'est-à-dire à faire... je dirais, un centre dynamique, rayonnant, productif, qui peut influer sur l'histoire. Non, il faut... Bah écoutez, pour savoir pourquoi l'Europe ne marche pas, prenez un billet d'un euro et comparez-le avec le billet d'un dollar. Et vous comprendrez tout. Vous aurez un euro qui est un billet de Monopoly, où il n'y a pas une devise, où il n'y a pas une figure, où il n'y a pas un lieu. Prenez un dollar à côté, vous avez toute l'histoire des États-Unis. Vous avez du Virgile... Vous avez Dieu et vous avez des figures, n'est-ce pas ? Le drame de l'Europe, c'est son caractère conceptuel, abstrait. Cette administration n'est pas charnelle. Donc elle ne suscite pas l'imagination, elle ne suscite pas donc peut-être la capacité de se sacrifier.
Et pourtant, les pères fondateurs, il y avait quand même mis quelques principes, quelques valeurs dans ce grand marché à l'origine, et notamment la paix.
Et notamment chrétienne.
Oui, l'Europe a été la combinaison de deux forces qui malheureusement n'existent plus. C'est la démocratie chrétienne d'un côté et la social-démocratie de l'autre. C'est embêtant qu'elles n'existent plus. Et c'est la combinaison de ces deux forces, de M. Schuman d'un côté, Gasperi de l'autre, Monsieur Brandt, etc. Bon, c'était très beau. Non mais attendez, je trouve que l'Europe était un projet formidable. Tant qu'on était à 6... peut-être à 12, à 27, pardonnez-moi, c'est de la foutaise.
Il y a tout de même, dans ce que vous dites sur l'évolution, si on reprend le champ large, l'Empire romain, l'Occident, dont l'Europe, à un moment donné, avant que ce soit l'Europe, l'Union européenne, c'était quand même l'Europe qui a dominé le monde pendant plusieurs siècles.
Elle a dominé le monde tant qu'elle n'était pas unie, rappelez-vous ça, c'est tout de même bizarre.
Et puis l'Amérique. Est-ce que vous diriez que c'est une succession d'étapes d'une même civilisation, malgré tout, qui s'est déployée et qui, à un moment donné, peut-être disparaîtra ?
Oui, c'est une bonne question. Est-ce que, comme disait Valéry, qui disait « l'Amérique est une projection de l'Europe ». Pour lui, les États-Unis, c'était une banlieue riche, mais ce n'était qu'une banlieue. C'est pourquoi il n'y est jamais allé. D'ailleurs, il ne trouvait pas ça important. Mais il n'était pas le seul à penser ça. Picasso non plus et Husserl non plus ne sont pas allés aux États-Unis. Mais vous posez la vraie question et de savoir si c'est une branche de la même civilisation ou si c'est une autre civilisation. Moi, je dirais que ça commençait par être une branche et ça finit par être quelque chose d'autre. Mais il en est toujours ainsi, si vous voulez. Le monde chrétien a été une branche du monde romain, et la christianitas a remplacé à un moment donné la romanitas. Ça demande quelques siècles, mais je crois vraiment... Quand vous lisez André Siegfried, dans les années 1930, il dit oui, il y a une civilisation européenne, et il la compare à une civilisation américaine. Je crois qu'aujourd'hui, il y a eu fusion sous l'hégémonie de l'américaine, et que nous nous insérons de facto, en partie par les technologies, parce que je crois que la civilisation, c'est pas qu'un esprit, la civilisation, c'est dans les mains, c'est pas dans les têtes, c'est dans les mains, c'est une façon de, c'est un usage du monde qui est fondé sur un certain nombre de techniques, commencer par la photographie, le cinéma, et aujourd'hui, évidemment, le numérique. Dois-je vous dire que le numérique est américain dans sa fabrication, dans sa langue et dans sa syntaxe? Mais encore une fois, je décris un état de fait. Je ne porte pas de jugement.
Est-ce qu'elle va mourir, cette civilisation? Est-ce que vous la voyez mourir potentiellement?
Pas tout de suite, non. Non, non. Je pense que les Chinois n'ont pas de projet pour le monde. Les Chinois n'ont pas de dieu unique, donc c'est pas un peuple élu. Les Chinois se foutent de nous, excusez-moi de cette expression. C'est-à-dire que ils ont besoin de commerce, de lignes d'approvisionnement, en Afrique, de zones agricoles, mais ils n'ont pas une vision de l'être humain, parce qu'ils n'ont pas de mandat divin.
Donc pas de contre-pouvoir pour l'instant. La conclusion à mi-parcours, Régis Debray, et je vous cite, il y avait en 1919 une civilisation européenne avec pour variante une culture américaine. Il y a en 2017 une civilisation américaine dont les cultures européennes semblent, avec toute leur diversité, au mieux des variables d'ajustement, au pire des réserves indigènes. Sur un échiquier, cela s'appelle un roc. Sur un champ de bataille, une défaite.
Liberté. Égalité, fraternité.
France Culture. La Grande Table. Olivia Jesbert.
Avec Régis Debray qui reste avec nous jusqu'à 13h30. Régis Debray, notre invité pour cet essai Civilisation, comment nous sommes devenus américains, qui vient de paraître, qui paraît aujourd'hui chez Gallimard. Merci d'ailleurs d'être là avec nous pour fêter la sortie de ce nouvel essai, Régis Debray. On a fait pour l'instant un constat d'échec, mais comment est-ce qu'on peut réagir par rapport à ça? Est-ce qu'il faut sortir toutes les défensives, mettre des remparts, se replier, c'est le village gaulois, on va tenter de résister à cette domination, à cette hégémonie américaine. Est-ce qu'on peut simplement le faire aujourd'hui?
Non, se replier n'est jamais la solution, bien sûr. Retrouver une autonomie de vol et de pensée, si, ça je crois que c'est important. C'est-à-dire ne pas faire du New York Times le paradigme du bon journal. Le New York Times est un journal nationaliste, il faut se le rappeler, qui a toujours accompagné les plus folles initiatives militaires des États-Unis en Irak ou ailleurs. Donc il faut retrouver, je dirais, une capacité simplement de penser par soi-même, je dirais, voilà. Et puis il y a tout de même ce fait, n'est-ce pas, c'est facile d'opposer l'ouvert et le fermé, mais moi je constate que dans le monde, il y a de plus en plus de pays qui se referment. Et c'est ça le drame, si vous voulez. Nous avons eu une mondialisation des outillages qui a provoqué une balkanisation des esprits. C'est-à-dire que, au fond, plus le monde s'est uniformisé par l'économie, plus on a vu ressurgir de cultures fondamentalistes, et la plupart fondées sur une religion. Donc, et ça, c'est une autre de ces illusions, si vous voulez, américaine, que des Français ont importé depuis 30 ans, maintenant ça commence à s'estomper, de dire que One World, la globalisation, ça va être la fin de l'histoire, tous les pays vont devenir démocratiques, etc. Non, la mondialisation est une incitation à la tribu, malheureusement. Alors il faut éviter à la fois l'indifférencié technologique et moral et le tribal méchant.
Et vous l'écrivez avec pas mal d'humour. Il arrive souvent, en effet, qu'une civilisation, une vieille civilisation prise dans le mainstream d'une offre nouvelle et mieux-disante, doive se replier sur son identité nationale, tel un périmètre de sécurité. Elle narcisse ses petites différences, stylise ses totems, théâtralise son accent. C'est pas ce que vous nous recommandez aujourd'hui ?
Ah non, non, mais ça c'est précisément la réaction Astérix. Hein. Alors elle me semble drôle, savoureuse, sympathique, non, mais ce n'est pas la solution. La solution, encore une fois, c'est de faire que la France soit un creuset. Que la France soit un creuset qui accueille, mais qui fonde en unité une multiplicité. Pour moi, si vous voulez, la clé de tout, c'est encore les États-Unis qui l'ont trouvé. Ils ont rassemblé le grand mystère de toute civilisation sous la devise « et pluribus unum ». Comment je peux faire avec une pluralité, avec une diversité, une unité, c'est-à-dire un style propre. Ça suppose à la fois d'accueillir, de s'ouvrir, mais aussi de mettre son sceau, de mettre son style.
Et vous pensez que c'est ça qui permet l'universalisation ?
Après, oui.
C'est le nécessaire à l'universalisation.
Oui, oui. On ne peut pas... Disons, pour être universel, il faut avoir, je dirais, un particulier accueillant.
C'est un résumé, effectivement, du processus. Mais vous dites penser par soi-même. Mmh. C'est ça la ligne que vous nous proposez de faire. Est-ce que tout le système américain, précisément, y compris dans la manière dont le langage est absorbé en partie, n'est pas fait pour nous empêcher de penser par nous-mêmes ?
Oui, c'est vrai qu'il y a une tendance dans cette société au conformisme. Je dirais, comment dirais-je ? Ils n'ont pas tellement besoin de culture puisqu'ils ont Dieu pour eux. C'est un peuple élu, c'est une religion biblico-patriotique. Donc,
et nous sommes la fille aînée de l'Église.
Nous étions... Non, le problème, c'est que nous n'avons plus de mythologie, c'est ça le problème. Nous n'avons plus, je dirais, de spiritualité. On en a détruit une, disons, pour aller vite, la catholique et la communiste, et on n'en a plus d'autres. D'où ça crée un grand vide, un grand trou... l'histoire a horreur du vide et par là s'engouffrent l'islamisme et le tribalisme, c'est-à-dire Al-Qaïda et Astérix.
Terminons peut-être sur un point très original que vous mettez en avant. C'est là que vous dites, Régis Debray, que les décadences, qu'on voit quand même comme un terme péjoratif, négatif, sont quand même indispensables, qu'elles peuvent être fécondes. En quoi ?
Écoutez, j'étais très sensible à cette remarque de Valérie qui dit « Au fond, les plus belles littératures sont les littératures de la décadence. » C'est-à-dire ce sont celles qui absorbent le plus de sucre, d'apport de tous côtés et qui sont extrêmement riches et nuancées et je dirais pleines d'esprit avec un S. Et c'est vrai, quand vous regardez la plus belle littérature latine, c'est tout de même la fin de l'Empire romain. Et puis, c'est peut-être vrai d'ailleurs pour la littérature française aussi. Bref, je ne crois pas que le mot décadence, il faut lui enlever ce qu'il a un peu de, je dirais, de morose. Les décadences sont souvent, un, des moments de création, de créativité, et deux, surtout, des moments de transmission. C'est là où ça se métamorphose et où, j'allais dire, on passe le flambeau à un autre. Mais on peut revenir. Mais à un moment donné, il faut passer le flambeau. Nous avons passé le flambeau aux États-Unis, malheureusement ou heureusement, je ne me prononce pas. Mais je n'exclus pas qu'après la fin de l'hégémonie américaine, revienne un peu une certaine présence européenne. Vous savez...
Et pas d'autres continents.
La Grèce a survécu à Rome. Rome a détruit la Grèce, Rome finit, et tout d'un coup, vous avez Byzance et 1000 ans de culture grecque. Alors, je n'exclus pas qu'on ait 500 ans de culture française, après, j'allais dire, l'invasion finnoise des États-Unis, mais il n'est pas exclu que nous revenions en force, si nous savons garder tout de même un petit filet de continuité.
Régis Debray, directeur de la revue Medium, Transmettre pour innover à la française. C'est le dernier numéro paru. Régis Debray, auteur également de Civilisation. Votre ouvrage, Comment nous sommes devenus américains, qui paraît aujourd'hui chez Gallimard. Restez avec nous pendant quelques minutes encore. C'est la chronique du médiateur Bruno Donnès qui a reçu pas mal de retours d'auditeurs. Vous savez qu'on est en pleine campagne et pas loin du deuxième tour de la présidentielle. Ça pourrait vous intéresser.
La grande table, le rendez-vous du médiateur.
Place au rendez-vous donc du médiateur. Bruno Denès, bonjour.
Bonjour Olivier Chesper, bonjour à tous.
Demain soir, la campagne électorale prend fin. Une campagne passionnée, passionnelle, comme vous avez pu le constater tous, avec, et surtout vous, les milliers de messages que les auditeurs vous ont adressés. Aujourd'hui, vous nous en dressez le bilan.
Oui, je suis désolé de le dire, Olivia, mais c'est une campagne qui a vraiment été marquée d'abord par une très grande intolérance, ensuite par une incompréhension volontaire ou involontaire du traitement de l'information, également par des réactions parfois irrationnelles avec l'éternelle théorie du complot, enfin, et c'est étonnant mais grave, il faut le dire, par un déni de démocratie. Alors évidemment, je le dis tout de suite, il ne faut pas généraliser, tous les citoyens, tous les auditeurs ne réagissent pas ainsi, mais les observateurs sont quasiment unanimes, cette campagne a été atypique et passionnelle, et ça s'est traduit dans les plus de 15 000 messages reçus depuis octobre dernier.
Et alors, quel a été le reproche qui a été le plus fréquent, Bruno ?
Alors, le plus fréquent, c'est de ne pas supporter d'entendre dans le journal de 8 heures, par exemple, un candidat ou le reportage sur un candidat qui n'est pas celui que je soutiens. C'est alors l'intolérance et la mauvaise foi qui font réagir. Vous censurez mon candidat, vous ne le diffusez jamais. Et là, le médiateur répond par un rappel à un principe fondamental de la démocratie. Chacun doit pouvoir s'exprimer, que l'on soit ou non d'accord avec ses opinions. Et il ajoute une explication basique sur le fonctionnement de la radio. Et oui, on ne peut diffuser 11 candidats dans un seul journal. Si celui que vous soutenez n'était pas dans le journal de 8 heures, il était peut-être dans celui de 12h30, n'est-ce pas Antoine ?
Dans celui de 18h, il faut tous les écouter.
De 18h également. Oui. Enfin, on en a beaucoup parlé, nous étions soumis à un contrôle très strict du CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, à propos du temps d'antenne et des temps de parole, et le CSA n'a rien trouvé à redire dans le traitement de la campagne sur France Culture.
Et toc, pourtant beaucoup d'auditeurs vous ont quand même écrit sérieusement, Bruno Denès, qu'on diffusait ici à France Culture trop de Front National.
C'est vrai, mais ce n'est que du ressenti. Le parti de Marine Le Pen, comme tous les extrêmes, eh bien évidemment il est clivant. Si je ne supporte pas le FN, je ne supporte pas de l'entendre à la radio et j'ai l'impression de n'entendre que lui. Alors j'écris au médiateur pour lui demander d'interdire de diffuser ce parti, ça j'ai reçu beaucoup de messages en ce sens. Alors le médiateur rappelle alors qu'il n'a pas de tel pouvoir, ni personne d'autre d'ailleurs, hormis le législateur. Et deux, le médiateur rappelle une fois encore les principes démocratiques de liberté d'expression.
Et notamment quand on a parfois des invités qui disent qu'ils vont s'abstenir, ça a été le cas pour nous hier,
ouais,
avec Jacques Rancière, cher Régis Debray, et ça a révulsé
pas mal d'auditeurs, notamment il y a Leïla qui nous a écrit « Pour qui se prennent-ils donc tous ces intellos ? Pourquoi les laisser faire le jeu du FN ?» Voilà, c'était les réactions d'hier.
Qui étaient très en colère, oui. On a eu pas mal de réactions parce que Jacques Rancière estimait qu'il n'était pas forcé d'appeler à faire
républicain. Le problème de fond, c'est qu'on dit nous sommes en démocratie d'opinion. Mais on oublie que la démocratie et la politique en général est affaire de passion. Et que les passions sont exclusives. Voilà.
Et beaucoup de points de vue sont représentés sur cette antenne et vous avez quand même le choix à votre subjectivité aussi. Et
alors disons que la démocratie, c'est comment faire se parler des passions contradictoires. C'est pas facile. Mais je crois que vous y avez réussi.
Bruno Denès, il y a aussi le choix des sujets, la construction des journaux qui est en cause.
En effet, là nous sommes dans le principe de base du journalisme, c'est-à-dire faire des choix. Et nous en faisons en permanence, tout simplement parce que les informations sont trop nombreuses. Il faut donc les sélectionner ce qui semble être le plus important, le plus intéressant. Évidemment, ça n'est pas non plus une science exacte. On peut se tromper, avoir des erreurs de jugement et d'interprétation. Mais non, un grand nom. Les journalistes ne se mettent pas tous d'accord lundi matin, par exemple, pour se dire « on va beaucoup parler des Le Pen pour faire peur aux Français ». Ça, j'ai reçu ce type de message qui m'a fait bondir. Encore et toujours cette bonne vieille théorie du complot. La réalité était simple et professionnelle. Le 1er mai, dans l'actualité, il y a le matin le rassemblement FN devant la statue de Jeanne d'Arc et l'après-midi, les défilés syndicaux.
Et cette théorie du complot, on l'a beaucoup invoquée également avec l'affaire Fillon.
Exactement. Nous avons, paraît-il, voulu vous tuer Fillon, vous vous êtes tous mis d'accord pour détruire la droite, et bien là, non, une fois de plus, les journalistes ont fait leur travail de journaliste, on ne s'est pas dit on va faire barrage à tel ou tel autre candidat, il y avait de l'information, nous l'avons donnée.
Bon, et pour terminer, il y a eu aussi des reproches sur le ton des interviews notamment.
Alors parfois, en effet, on a reproché aux journalistes d'être trop agressifs, et c'est vrai que c'était plutôt contre-productif d'être agressif. En revanche, je ne partage pas cette approche quand on nous dit vous êtes plus insistant et accrocheur avec les candidats que vous qualifiez d'extrémistes. populistes. Pour moi, c'est plutôt un réflexe professionnel. Les candidats populistes, de droite comme de gauche, justement pour plaire à leurs électeurs, lancent souvent des quantités de promesses. Eh bien, c'est le travail des journalistes d'aller plus loin que les simples promesses. D'ailleurs, il faut signaler que deux candidats ont refusé beaucoup d'interviews et d'invitations de médias. Ils préféraient s'exprimer sans questions embarrassantes devant leurs militants ou les réseaux sociaux. Mais là, ça n'est plus de l'information, c'est de la propagande.
Merci beaucoup Bruno Tonnesse, médiateur des antennes de Radio France. Les auditeurs peuvent vous écrire sur votre site médiateur.radiofrance.fr. Merci à vous, merci Antoine Mercier, merci Régis Debray.
Merci à vous.
Et un énorme merci à toute l'équipe de la Grande Table aujourd'hui, aux manettes Perret-Legras avec Alex Tang.